9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. On va revenir ce matin sur l'abrogation du droit fédéral à l'avortement décidé par la Cour suprême des États-Unis, mais on va le faire avec Frédéric Rouvillois, qui est professeur de droit constitutionnel. Son explication est originale parce qu'elle est plus juridique qu'idéologique. Et l'on entendra l'un des plus doués parmi les jeunes barytons lyriques, c'est Florian Sempey qui sort son premier album solo. Mais d'abord, la dette publique, la remontée des taux d'intérêt, l'inflation, les bourses qui plongent, la crainte de la récession, du défaut de paiement, de l'apocalypse financière. J'ai donc invité Philippe Martin.
Europe 1.
Philippe Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président délégué du Conseil d'analyse économique, une instance composée d'économistes reconnus qui conseillent en toute indépendance le Premier ministre français. La mission du Conseil d'analyse économique et d'éclairer les choix du gouvernement en matière économique, ce qui n'est pas une mince affaire par les temps qui courent. La dette publique a encore augmenté de près de 165 milliards en un an. Elle dépasse les 2900 milliards. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déclaré que la France avait atteint la cote d'alerte. Vous le pensez aussi ?
En tout cas, il est dans son rôle, je pense, de dire en effet qu'on est dans une situation de dette élevée et qu'en effet, il va falloir, dans les années qui suivent, diminuer le déficit public et petit à petit, mais lentement certainement, diminuer la dette publique aussi.
La charge de la dette, les intérêts que nous remboursons chaque année, ils étaient encore très bas en 2020, seulement 33 milliards par an. Ils sont montés à 38 milliards en 2021. Ils vont grimper à 55 milliards cette année. Ils pourraient atteindre les 100 milliards d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, voire plus.
Alors, ces chiffres me paraissent quand même élevés. C'est vrai qu'ils vont augmenter parce qu'on n'est plus dans la situation où les taux d'intérêt étaient en gros zéro ou même un peu négatif sur la dette publique de la France. Aujourd'hui, la dette publique à 10 ans, à horizon de 10 ans, elle est à des taux de 2%. Ce qui reste quand même des taux assez faibles, hein, ce qui compte pour ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette, c'est-à-dire est-ce que à terme le ratio dette sur PIB est-ce qu'il va exploser ou pas. Ce qui compte, c'est la différence entre le taux d'intérêt qu'on paye, hein, la charge de la dette, comme vous en disiez tout à l'heure, et puis le taux de croissance. Et quand même, a priori, on devrait rester dans une situation où le taux de croissance de l'économie française, ce qui est en gros la base fiscale, hein, quand même, ce qui serait important pour les revenus pour l'État, et les taux d'intérêt, la différence devrait rester positive. Donc moi, je considère quand même que certes, on est dans une situation préoccupante et sur laquelle il faut faire des efforts budgétaires, mais on n'est pas dans une situation où la dette publique française serait insoutenable et où on irait vers une situation de type grec.
Et l'inflation s'est indexée en partie sur l'inflation, non ?
Il y a une partie, en gros 10% de la dette publique française, en effet, qui est indexée sur l'inflation, ce qui veut dire qu'en effet, on va payer plus cher une partie de cette dette simplement du fait de l'inflation. Mais l'inflation, elle a aussi un impact sur les recettes fiscales, hein. Une partie, évidemment, par exemple la TVA, bien entendu, ou certaines recettes sur les produits énergétiques. Donc, de ce point de vue, il y a certaines recettes qui augmentent aussi avec l'inflation.
Philippe Martin, le soutien de la BCE, la Banque Centrale Européenne, dirigée par Christine Lagarde, il est capital, non ? Car la BCE achète une part très importante des émissions de dette publique des États européens, dont la France. Est-ce qu'elle peut continuer indéfiniment ?
Non, elle a même dit qu'elle allait arrêter, hein, ses achats de dette publique, d'augmenter. En tout cas, elle va arrêter d'augmenter ses achats de dette publique. Donc, évidemment, ça signifie qu'une partie de cette demande de la dette publique française, mais italienne, etc., qui venait de la Banque Centrale Européenne, elle ne se fera plus. Et donc, il va falloir trouver d'autres investisseurs privés, des caisses de retraite, français et étrangers, pour acheter cette dette. Et donc, en effet, la dette publique, on va devoir offrir aux investisseurs des taux d'intérêt plus élevés. Encore une fois, ils ont augmenté. Ils étaient à peu près à 0%, hein, c'est-à-dire que l'État français s'endettait à zéro vis-à-vis des épargnants. Aujourd'hui, à 10 ans, il s'endette à 2%. Et donc, le changement de politique monétaire, il a en effet un impact sur le coût de financement pour l'État français.
Nous, on emprunte à 2%, l'Allemagne, je crois, c'est à 1,5%, mais l'Italie approche les 4%, ce qui va rendre sa situation intenable, étant donné l'ampleur de sa dette. L'Italie pourrait se retrouver en défaut de paiement, comme la Grèce en 2012 ?
Alors, on n'est pas dans cette situation encore, mais c'est vrai que la situation pour un certain nombre de pays de la zone euro, et l'Italie est évidemment le pays où l'inquiétude est la plus forte parce que son taux d'endettement est extrêmement élevé, hein, plus de 150% de son PIB, c'est en effet l'inquiétude très forte de la conséquence du changement de la politique monétaire. Donc la politique monétaire se durcit, les taux d'intérêt augmentent pour tout le monde, mais ils augmentent plus encore pour les pays qui sont vus comme des pays en effet comme risqués, hein. Et donc c'est ce qu'on appelle le risque de fragmentation de la zone euro. Et vous rappeliez évidemment la crise grecque. Il y a évidemment une inquiétude de revenir sur la situation de 2011, 2012, 2013, où en effet il y a eu un risque d'éclatement de la zone euro avec un défaut de la Grèce et avec un risque de sortie. Et donc il faut surtout éviter cela. Donc ce qui va être très difficile pour la Banque Centrale Européenne, c'est à la fois de contrer le retour de l'inflation, ce qui demande une politique monétaire plus stricte, hein, et donc une remontée des taux d'intérêt, mais pas trop pour les pays qui sont les plus fragiles sur le plan financier, type Italie, et Espagne, Grèce, etc.
Et toute la dette publique des États européens que la BCE a rachetée, qu'est-ce qu'elle en fait après ?
Bah, là, pour le moment, elle garde cette dette. Puis, il y a une partie de la dette qui vient à maturité. C'est-à-dire, si c'est une dette à 10 ans, après 10 ans, bien, elle reçoit, la Banque Centrale Européenne reçoit le montant de cette dette. Donc, la question, qui est un petit peu technique, mais en fait, qui est extrêmement importante, c'est comment elle va réinvestir une partie de ces montants. Et donc le débat, c'est est-ce qu'elle doit le réinvestir justement en dette italienne, hein, parce que c'est là où il y a un risque. Mais évidemment, vous pensez bien que, par exemple, les Allemands ne sont pas très heureux de savoir qu'une partie de leur dette ne sera plus achetée ou même revendue par la Banque Centrale Européenne pour racheter de la dette italienne, parce qu'ils considèrent, et pas complètement à tort, que c'est un transfert, vous voyez, où on finance l'Italie en vendant de la dette allemande. Donc ce débat, qui est un débat économique, bien sûr, c'est un débat très politique, hein, bien entendu, puisque ça signifie implicitement il y aurait des transferts entre les pays du Nord et les pays du Sud, et c'est même un débat très juridique, hein, puisque c'est ce type de politique monétaire et ce type de rachat de dette qui serait différencié entre les différents pays de la zone euro est très encadré, hein, d'un point de vue juridique. C'est pas complètement évident que ce soit légal.
Ne quittez pas Philippe Martin, on se retrouve dans un instant, j'ai encore des questions à vous poser.
Europe 1,
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Nous sommes ce matin avec Philippe Martin, qui est professeur au département d'économie de Sciences Po et président délégué du Conseil d'analyse économique. Philippe Martin, la BCE, ces dernières années, a créé des dizaines de milliards d'euros toutes les semaines. Est-ce que c'est sain ? Est-ce que ça peut bien se finir ?
Alors moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le retour de l'inflation, par exemple, aujourd'hui, il est directement lié à la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Je pense qu'il ne faut pas se tromper ici de diagnostic, hein. L'inflation, c'est pas lié à la politique monétaire. L'inflation en zone euro, elle est directement liée à ce qui s'est passé avec la manipulation des prix du gaz et du pétrole par la Russie, hein. C'est ça qui fait la moitié de l'inflation directement en zone euro. Et de ce point de vue, le retour de l'inflation en Europe est très différent des États-Unis, où là, en effet, il y a eu certainement une politique en particulier fiscale et monétaire trop expansionniste. Donc, je pense que la Banque Centrale Européenne a bien fait, en effet, en particulier pendant la crise Covid, d'avoir une politique monétaire très expansionniste. En revanche, là maintenant, en effet, il faut qu'il y ait une normalisation, hein, de la politique monétaire, et il faut donc que les taux d'intérêt qui étaient négatifs, ce qui est pas en effet sain, hein, ça je suis d'accord avec vous. Je pense en effet qu'il faut qu'on revienne vers des taux d'intérêt positifs, mais il faut le faire de manière graduelle. Il faut pas casser d'un seul coup la croissance, et il faut pas non plus recréer une crise de la zone euro.
Au même moment, les bourses mondiales plongent. Elles ont peur de la récession. On vient de vivre entre janvier et juin en France le pire semestre boursier depuis la crise de 2008. On a perdu presque 20%. Le Nasdaq, c'est plus de 30% du jamais vu. Au total, ce sont plus de 17 000 milliards qui se sont volatilisés depuis le début de l'année sur les bourses mondiales. Est-ce qu'on va vers une apocalypse financière, comme certains le redoutent, une chute brutale et générale qu'on promettait à la Russie? Est-ce que c'est nous qui risquons qu'on l'a subi?
En tout cas, ce qui est clair, c'est que les marchés boursiers anticipent en effet maintenant un scénario très probable de récession aux États-Unis. Hein. Ce qu'essayait de faire la Federal Reserve, c'était ce qu'on appelle un soft landing, c'est-à-dire non pas une récession, mais essayer de refroidir un petit peu l'économie. On voit bien que ça va être difficile et que potentiellement, pour casser l'inflation aux États-Unis, il y aura besoin en fait d'une récession forte. Donc c'est ça que les marchés boursiers anticipent, en tout cas comme risque. Après, faisons attention. Vous savez, les marchés boursiers, ils sont extrêmement volatiles. Ils vont très haut et trop haut parfois, et puis ensuite ils paniquent et ils vont très bas très vite. Donc moi, je ne pense pas, en tout cas, qu'il faille décider de la politique économique en fonction de ce que les marchés boursiers disent et font. Souvent, les marchés boursiers, comme les marchés financiers, se trompent et vont trop haut et à la fois et trop bas aussi dans les booms et dans les crashs.
Et l'inquiétude qu'on peut avoir sur l'inflation, elle vous semble motivée, sachant que, comme vous l'avez dit, les raisons de l'inflation en Europe sont externes, hein. Est-ce que ça veut dire qu'elle pourrait être jugulée facilement?
Non, justement, elle ne sera pas jugulée facilement, parce que vous voyez bien que c'est même pas la politique monétaire qui va faire baisser évidemment les prix du pétrole et les prix du gaz qui en ce moment sont manipulés par la Russie. Donc la seule chose que peut faire la politique monétaire sur l'inflation, c'est de casser potentiellement ces mécanismes d'amplification ou le choc sur les prix énergétiques ensuite s'amplifie sur les autres secteurs de l'économie, le manufacturier, les services, les salaires, etc. Donc ce qu'il faut, c'est en effet casser une boucle, ce qu'on appelle parfois la boucle prix-salaire, où les anticipations d'inflation, où tout le monde se dit « Ah, l'inflation va exploser ». Donc ça, il faut que ce soit très clair que, il en retourne de la crédibilité hein, de la Banque Centrale Européenne, que la Banque Centrale Européenne ne laissera pas faire une augmentation continue de l'inflation. En revanche, les prix de l'énergie, ça n'est pas la politique monétaire qui va pouvoir avoir un impact direct là-dessus. Moi, je suis favorable hein, à ce qu'on reprenne la main, en particulier vis-à-vis de la Russie, sur les prix de l'énergie. Donc, il y a des discussions, par exemple, sur un plafonnement des prix auxquels on achèterait le gaz ou le pétrole vis-à-vis des Russes. Hein, et ça, c'est des discussions qu'il y a au niveau européen ou avec les Américains aussi.
Philippe Martin, vous l'avez bien vu, je ne suis pas économiste. Les questions que je vous pose sont à peu près le reflet de ce qui peut inquiéter les citoyens de ce pays. Vous qui êtes économiste, qu'est-ce qui vous inquiète, vous ?
Alors, ce qui m'inquiète, c'est actuellement certainement l'effet récessionniste, hein, l'effet de très très fort sur le niveau de vie, le pouvoir d'achat des prix de l'énergie, encore une fois manipulé par la Russie. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que je pense que je comprends la contrainte politique pour le gouvernement de geler certains prix, de faire des rabais sur l'essence. Mais en tant qu'économiste, moi, je pense que ça n'est pas la bonne manière de faire parce que c'est très cher, hein, ces rabais. Ça coûte beaucoup d'argent. On parlait de la dette publique tout à l'heure. C'est très peu ciblé puisque tout le monde en bénéficie, qu'on soit riche ou pauvre. Et ça n'envoie pas le bon signal en termes, évidemment, d'essayer de réduire hein, la consommation en termes de sobriété. Donc moi, je pense que ce qui m'inquiète, c'est qu'il y ait une surenchère, en particulier peut-être au Parlement, où on fasse des chèques, non seulement des chèques, mais aussi des baisses de taxes, par exemple une baisse de TVA, qui serait, à mon avis, une très mauvaise solution dans la situation actuelle. Donc Ce qui m'inquiète, c'est au-delà du choc très négatif, hein, bien entendu, sur les prix du gaz, le prix du pétrole, c'est aussi potentiellement qu'il y ait des surenchères politiques et où, au-delà du choc, on fasse des erreurs de politique économique.
Merci infiniment, Philippe Martin, d'avoir répondu à mes questions. On fait une pause, on se retrouve juste après. On va revenir sur le droit à l'avortement aux États-Unis, bien entendu.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Frédéric Rouvillois, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes professeur de droit constitutionnel et dans une tribune publiée par le Figaro Vox, vous analysez la décision de la Cour suprême de revenir sur l'arrêt Roe versus Wade sur le droit à l'avortement d'une manière très différente de tout ce qu'on a pu lire et entendre depuis une semaine. Alors pour comprendre, il faut d'abord intégrer ce qu'est le rôle de la Cour suprême. C'est de résoudre les différends qui mettent en cause les États de l'Union, de garantir l'interprétation et l'application uniforme du droit fédéral et de faire respecter la Constitution des États-Unis.
Son rôle, c'est pas de créer du droit ou de créer des droits, comme elle avait fait justement dans sa décision 73, Roe versus Wade, mais c'est de dire la Constitution, c'est d'appliquer la Constitution, c'est-à-dire une règle qui effectivement s'applique à tous et qui a la particularité d'être une règle démocratique, qui a été décidée par le peuple américain et qui est la règle suprême.
En 73, dites-vous, la Cour avait instauré un droit à l'avortement qui ne figurait pas dans la Constitution, mais auquel allaient devoir se soumettre tous les États des États-Unis.
Écoutez, oui, c'est tout le problème, si j'ose dire. En fait, il y a le nœud du problème, c'est le 14e amendement de la Constitution américaine. La Constitution américaine est très ancienne. Elle a été établie en 1787. Mais il y a eu plusieurs amendements, toute une série d'amendements jusqu'à nos jours, pratiquement. Et en 1868, après la guerre de sécession, on adopte ce 14e amendement qui dit, grosso modo, que voilà, la liberté des citoyens doit être respectée par les différents États fédérés.
C'était en l'occurrence, c'était pour les esclaves qui venaient d'être affranchis.
Voilà, notamment pour les esclaves. Donc, en fait, une formulation qui est incroyablement générale, dans laquelle on dit juste qu'il faut défendre la liberté et la propriété des propriétés de tout le monde. Et le problème, c'est que ce 14e amendement va être utilisé et interprété par la Cour suprême pendant donc un siècle et demi, de manière complètement variable et à chaque fois problématique, parce que la formulation est tellement général qu'on peut en faire en fait n'importe quoi. Et vous savez qu'en droit, c'est ce qu'on apprend à nos étudiants, plus une règle est générale, plus le juge finalement est libre d'en faire absolument ce qu'il veut.
Et là,
on a quelque chose de vraiment une espèce de boîte de Pandore potentielle qui peut aller dans le sens du conservatisme le plus radical comme dans le sens du progressisme le plus absolu.
Et au fond, par sa décision du 24 juin dernier, la Cour suprême dit qu'il n'y a pas de droit constitutionnel à l'avortement. Elle ne dit pas qu'il faut l'interdire. Elle laisse au fond le peuple de chaque État en décider.
Oui, ça c'est la chose qui est vraiment importante. C'est-à-dire qu'en fait, en 73, dans cette fameuse décision Roe versus Wade, la Cour suprême interprète de manière objectivement idéologique le 14e amendement pour en déduire l'existence d'un droit fédéral à l'avortement. Ce que nous dit la Cour suprême dans sa décision donc Dobbs du 24 juin, c'est que non, ça ne figure pas dans la Constitution et finalement, la Constitution ne dit rien sur ce problème de l'avortement. Donc, finalement, il faut s'en remettre aux différents États, c'est-à-dire au peuple, c'est-à-dire en fait à la démocratie. Et donc, cette espèce de bronca extraordinaire à laquelle on a assisté ne prend pas en compte le fait que, au fond, dans cette décision, même si effectivement il y a peut-être un soubassement idéologique, je ne dis pas le contraire, ce sont les juges conservateurs qui sont désormais majoritaires, mais il n'empêche que, techniquement, si vous voulez, la Cour suprême a dit non, c'est pas à nous de dire le droit, c'est pas à nous de nous substituer au peuple pour établir une règle constitutionnelle, comme par exemple le droit à l'avortement, c'est aux différents peuples de dire ce qu'ils veulent.
Oui, voilà. La question que vous soulevez, Frédéric Rouvillois, n'est pas de savoir si c'est bien ou mal d'autoriser ou d'interdire l'avortement au niveau fédéral, mais de comprendre de quelle manière ça s'est produit, au fond. Et en créant un tel droit à l'avortement, la Cour suprême, en 1973, avait usurpé une autorité qu'elle n'avait pas. La capacité de créer de nouvelles règles constitutionnelles, ce qui n'appartient qu'au peuple, et en le faisant, elle a aboli les pouvoirs du peuple et de leurs représentants élus.
Oui, de fait, c'est ça. Puisque finalement, à partir de ce 14e amendement qui ne dit absolument rien
sur l'avortement.
Sur l'avortement, la Cour suprême, en 73, dit voilà, l'avortement est autorisé pour tout le monde jusqu'à 24 semaines. Et bah, les États n'ont qu'à se plier à cette décision.
Ils ne peuvent plus l'interdire.
Autrement dit, le peuple, si vous voulez, se voit imposer une règle qu'il n'a pas choisie, qu'il n'a pas décidée. Autrement dit, ce faisant, le juge se situe au-dessus du peuple. Le vrai problème, c'est ça. Hein, c'est que ce qu'on appelle parfois le gouvernement des juges, c'est au fond le juge qui va se situer au-dessus du peuple et donc au-dessus de la démocratie.
C'est ce qui est arrivé, d'après vous, en 73. On pouvait trouver ça très bien, hein, mais c'était un cas flagrant de gouvernement des juges.
Flagrant, absolument. Dans quelques journaux français, j'ai lu que la décision du 24 juin, c'était le gouvernement des juges parce qu'on allait à l'encontre de... Mais non, c'est pas le gouvernement des juges. C'est les juges qui, au contraire, se dessaisissent d'un pouvoir qu'ils avaient objectivement, qu'ils étaient appropriés, qu'ils avaient objectivement usurpé en 73.
Il y aurait un cas de gouvernement des juges si, le 24 juin, ils avaient décidé d'interdire l'avortement.
Exactement.
Dans tous les États,
voilà,
comme ils
ça.
L'avaient autorisé dans tous les États en 73.
C'est ça.
Ça n'est pas
c'est
le cas.
Très exactement. Dès lors que la Constitution ne dit rien sur la question, le juge ne peut pas s'y servir de la Constitution ni pour dire qu'il y a un droit à l'avortement, ni pour interdire l'avortement, puisque la Constitution est muette sur la question et que justement, tout le jeu ici, ça va être de rendre au peuple le pouvoir qui est le sien.
On fait une pause, Frédéric Rouvillois, ne bougez pas, on continue d'en parler.
Europe 1,
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Nous sommes avec Frédéric Rouvillois, qui est professeur de droit constitutionnel. On revient sur la décision de la Cour suprême du 24 juin dernier, hein, qui a eu un tel retentissement, alors vraiment mondial. Hein. Il faut dire que les Américains, quand ils prennent une décision, très souvent, le monde entier la commente.
Hein. C'est ça, l'Amérique tous et tout le monde.
Voilà.
Le monde entier,
on a parlé, et vous venez de parler vous aussi, de gouvernement des juges. Quand la Cour suprême invalide une loi adoptée par les représentants du peuple, on peut parler de gouvernement des juges, dites-vous. Hein. C'était le cas, par exemple, au début du XXe siècle, quand la Cour suprême invalidait toutes les lois sociales votées par le Congrès. Mais aujourd'hui, quand ils rendent le pouvoir au peuple et à leurs représentants, ça n'est plus le gouvernement des juges. Si les Texans veulent interdire l'avortement, c'est la volonté des Texans. Les juges n'ont rien à y redire. En tout cas, c'est ce que vient de décider la Cour suprême américaine. Et pareil pour les Californiens qui, eux, veulent autoriser l'avortement. Bah, les juges n'ont rien à y redire non plus.
Les juges, dans une démocratie, effectivement, n'ont pas à se substituer au peuple. Et si vous voulez, il suffit pas que le juge annule une loi pour qu'on puisse parler du gouvernement des juges, mais en revanche, on peut en parler, me semble-t-il, et c'est à ce propos que la notion a été inventée dans les années 1910-1920, lorsque le juge va annuler une loi adoptée par le peuple sans se référer à un texte supérieur, en l'occurrence la Constitution, qui aurait lui-même été adopté par le peuple. C'est ce que la Cour suprême a fait un certain nombre de fois, et c'est ce qui, au fond, c'est le problème, effectivement, de la décision de Roe v. Wade sur l'avortement de 73. Voilà, la Cour suprême va extraire de manière incroyablement audacieuse et artificielle, hein, cette notion de droit à l'avortement d'un texte qui parle simplement de la liberté et de la propriété.
Ce qu'il faudrait, au fond, c'est l'inscrire en toutes lettres dans la Constitution américaine, ce
Absolument.
Droit à l'avortement, comme on se propose d'ailleurs de le faire en France. Mais comment change-t-on la Constitution aux États-Unis? Les amendements doivent être proposés par le Congrès et ratifiés par les trois quarts des États. C'est beaucoup plus compliqué de changer la Constitution américaine que de changer la Constitution française.
Oh bah écoutez, la Constitution française, c'est quand même assez compliqué aussi, mine de rien, parce qu'il faut que les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, soient d'accord sur le changement. Et il faut ensuite, soit effectivement qu'on passe par le Congrès, à majorité 3/5, soit, si possible, et c'est quand même mieux, qu'on passe par un référendum permettant aux Français démocratiquement de se prononcer. Donc, effectivement, vous avez raison, Frédéric, aux États-Unis, c'est encore beaucoup plus compliqué.
C'est encore plus compliqué.
Parce qu'effectivement, voilà, il faut les trois quarts des États, et là, voilà, c'est un peu la croix et la bannière.
Mais en tout cas, ce ne sont pas 6 des 9 juges de la Cour suprême nommés par les démocrates ou par les républicains qui peuvent s'en charger. Au fond, c'est ça ce que nous rappelle la Cour suprême aujourd'hui.
Ben oui, c'est ça. C'est que voilà, les règles fondamentales, et notamment les règles constitutionnelles, y compris les droits constitutionnels, comme l'avortement ou pas, hein, ben, effectivement, c'est pas un juge qui a été désigné de manière plus ou moins aléatoire, etc.
Très arbitraire de
le faire. C'est effectivement, dans une démocratie, au peuple de décider. Si c'est, il en va autrement, à ce moment, on n'est plus en démocratie. Mais à ce moment, il faut le dire, il faut le comprendre. On est à ce moment dans une espèce d'oligarchie judiciaire. C'est pas ce qu'on veut a priori.
Ce qui différencie tout de même les juges de la Cour suprême des années 70, qu'on qualifiait de libéraux, des juges d'aujourd'hui qu'on qualifie de réactionnaires, c'est qu'ils défendaient à l'époque la théorie du droit vivant et qu'ils défendent aujourd'hui l'inverse, la doctrine originaliste qui consiste à lire littéralement la Constitution. Hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Frédéric Rouvillois ?
Bah, effectivement, dans les années 70, la Cour suprême est très progressiste. Et au fond, il y a une théorie juridique qui convient très bien à son approche. C'est la fameuse théorie du droit vivant, l'idée selon laquelle, au fond, le juge ne doit pas s'intéresser à ce qu'a été l'intention ou à ce qu'a été la signification initiale d'un texte, même s'il a été adopté par le peuple, mais au fond à ce que ce texte pourrait devenir, à la signification qu'il pourrait avoir finalement dans la société contemporaine, en fonction de, on va dire, du climat général, de l'esprit du temps, de voilà. Le problème évidemment, c'est que vous comprenez bien que ça laisse une place inouïe et même totale à la subjectivité du juge, parce que cet esprit du temps, etc., c'est le juge qui va le déterminer, c'est lui qui va sentir que ceci ou cela. Or, comme les juges américains sont effectivement très politisés, bah voilà, ce que le juge conservateur va ressentir, ça n'est pas la même chose que ce que le juge progressiste, comme dans les années 60-70, va ressentir de son côté. Donc voilà, cette théorie du droit vivant, elle peut apparaître assez séduisante, hein, c'est l'idée selon laquelle, au fond, il faudrait adapter un petit peu, mais adapter en permanence, finalement, le droit à l'état de la société. Mais le problème, c'est quand c'est le juge qui le fait, à la place du peuple lui-même, on n'est plus en démocratie.
Et donc aujourd'hui, les juges de la Cour suprême, en tout cas les 6 juges républicains, dont 3 ont été nommés par Donald Trump, eux, leur doctrine, elle est originaliste, ils lisent la Constitution, ce qu'il y a dans la Constitution
voilà,
et ce qu'il n'y a pas.
En fait, si vous voulez, c'est très intéressant parce qu'il y a un rapport en fait, entre la théorie jurisprudentielle, le droit vivant, et progressisme, et de l'autre côté, un rapport entre, on va dire, la pensée conservatrice et l'originalisme, c'est-à-dire l'idée qu'il faut revenir à l'origine pour savoir ce qu'il y a dans le texte, ce qu'ont voulu les auteurs de ce texte, et ce qu'est donc la manière dont il a été utilisé à l'origine.
Il y a les mêmes oppositions au sein des religions, d'ailleurs, c'est intéressant.
Hein, oui, bien sûr.
Mais Frédéric, quand la Cour suprême limite les moyens de l'État fédéral de lutter contre le réchauffement climatique, comme elle l'a fait jeudi dernier, elle estime que l'Agence pour la protection de l'environnement américaine ne peut pas édicter de règles générales pour réguler les émissions des centrales à charbon qui produisent près de 20% de l'électricité aux États-Unis. Elles disent d'ailleurs, enfin les juges disent dans leur motivation, ils disent c'est peut-être la bonne solution, hein, mais c'est pas le problème. C'est pas notre problème. Notre problème, c'est au fond de dire que c'est pas dans la Constitution. Donc tout simplement.
C'est-à-dire que c'est pas la Constitution. C'est-à-dire en fait ça n'est pas ce qu'ils veulent dire. C'est il faut pas abolir ça. Là encore, ils disent c'est pas à l'État fédéral de le faire. Et si vous voulez, il y a une chose qui est très notable dans cette jurisprudence actuelle de la Cour suprême, c'est qu'au fond on rend le pouvoir, non seulement au peuple, mais au peuple au pluriel, des différents États fédérés qui constituent les États-Unis. Et voilà. Ce que dit la Cour suprême, c'est que voilà, c'est au niveau des États fédérés, à la rigueur, que ces décisions-là pourront être prises, mais pas au niveau de l'État fédéral. Parce que l'État fédéral n'a pas compétence pour cela en vertu de la Constitution.
D'ailleurs, si ce pouvoir a été remis à l'Agence pour la protection de l'environnement, c'est parce que Barack Obama, à l'époque, n'avait pas réussi à le faire voter par le Congrès.
Hein, bien sûr,
tout simplement.
C'est ça, voilà.
Merci beaucoup Frédéric Rouvillois pour toutes ces explications. Merci encore. On se retrouve juste après avec un chanteur lyrique, parce que dans cette émission, tout doit finir par des chansons.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Florian Sempey, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu un matin. Comme tous les chanteurs d'opéra, vous êtes plutôt quelqu'un du soir.
Oui, c'est vrai. Malheureusement, oui.
Et comment fait-on quand à l'Opéra de Paris, on est obligé de répéter le matin ?
Ah, on rassemble toutes ses énergies, on boit beaucoup de café et on essaie de sourire, d'être toujours gai pour trouver les bonnes idées en répétition et trouver les bonnes émotions. Mais c'est vrai que travailler sur des personnages, surtout des personnages un peu déprimants et dépressifs comme celui que je suis en train de faire à l'Opéra de Paris en ce moment, à 10h le matin, c'est compliqué.
Il n'y a que l'Opéra de Paris qui maintient les répétitions le matin, non ?
Et effectivement, rares sont les opéras dans le monde aujourd'hui qui demande aux artistes de venir à 10h le matin pour être créatifs, on va dire. Mais c'est toujours un plaisir, surtout quand on a d'excellents collègues et une équipe. On est toujours très bien accueillis à l'Opéra de Paris. On se sent comme à la maison et c'est ça qui est important.
Florian Sempey, vous êtes un baryton lyrique et vous sortez votre premier album solo avec l'Orchestre National de Bordeaux, dirigé par Marc Minkowski. Il est consacré à Rossini. Il s'intitule Rossini Figaro Si. Je propose d'écouter tout de suite un extrait d'un morceau ou d'un air, plus exactement, qui convient parfaitement à votre voix de baryton. Hein, c'est celui du Barbier de Séville, qui a fait votre renommée depuis 10 ans à Covent Garden, à l'Opéra de Paris, en passant par l'Opéra de Rome. On écoute un extrait. Largo facto de la città, largo. Presto bottega che l'erba è già presto. Ah, che bel vivere, che bel piacere per un barbiere di qualità, ah, bravo, 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 bravissimo, bravo, la 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 la, ah, fugacissimo, per verità, bravo, la 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 la, Florian Sempey, c'est un peu votre air des bijoux à vous. Hein. Je fais allusion à la Castafiore qui sente sans arrêt à je ris de me voir si belle en ce miroir. Vous, c'est ce morceau-là.
Oui, moi je ris encore de chanter le rôle de Figaro, bien évidemment, qui me suit depuis 10 ans et que j'ai le bonheur d'amener avec moi dans ma valise un peu partout où je me déplace dans le monde. Et j'ai le bonheur d'être invité dans de grandes maisons pour le chanter et encore dans le futur. Donc c'est un rôle qui me donne tellement de joie et je pense en donner un peu aux gens quand je l'interprète, quand je le chante, quand je leur transmets, quand je leur donne. Et donc bien évidemment, quand ce projet d'enregistrement avec Alpha a vu le jour, il était évident qu'on allait aller vers le répertoire rossinien et vers Figaro.
Rossini avait 23 ans il y a 2 siècles quand il a composé ce morceau. C'est l'âge auquel John Lennon a écrit She Loves You et Jim Morrison Light My Fire. C'était une espèce de rockstar de l'opéra, hein, Rossini. Il avait débuté sa carrière de compositeur à l'âge de 18 ans.
C'est merveilleux. C'est comme Mozart, mais c'est tout grand. Tous les grands génies de la musique classique, très précoces, de toute façon, ils nous ont laissé les plus belles pages, les plus belles partitions de sont des partitions de jeunesse. D'ailleurs, Rossini a terminé de composer très très jeune. À 35 ans, c'était terminé.
En tous les cas, l'opéra,
oui, parce qu'on sait qu'il a composé Les Péchés de vieillesse, il a composé La Petite Messe solennelle,
le Stabat Mater,
mais ce sont des choses très tardives. Alors que l'opéra vraiment se concentre dans la toute première partie de sa vie. Et quelle page de musique, quelles œuvres, c'est magistral, magistral.
L'un de ses derniers opéras, d'ailleurs l'avant-dernier pour être précis, en français, fut créé en 1828. On en écoute un extrait, c'est le Comte Ory. Il est beaucoup moins connu que le Barbier de Séville, mais quand vous le chantez, c'est assez exceptionnel.
Dans ce lieu solitaire, propice au doux mystère, moi qui n'ai rien à faire, je m'étais endormi. Dans mon âme indécise, un certain goût d'entreprise que les hommes autorisent vient m'éveiller aussi. C'est le seul moyen d'être digne d'un pareil maître, et je veux reconnaître ce manoir en détail. Je marche brillante, à mes yeux se présente une chambre élégante, c'est celle du travail. Une harpe jolie de la tapisserie, près d'une broderie, j'aperçois un roman. Même en une chambrette, j'ai dans une cachette cru voir l'historiette du bon tyran le blanc. Je sors de l'oratoire, je rentre au réfectoire, où rien ne me fait croire à l'espoir d'un festin. Marchant à l'aventure, sous une voûte obscure, j'entrevois l'ouverture d'un affreux souterrain. Une beauté naïve, petit gémir captive, je m'élance et j'arrive dans un vaste cellier, dont l'étendue immense et la bonne apparence attestait la prudence du sire de Formosier. Arsenal redoutable qui fait complice à table, courage indomptable contre le sarrasin. Armée immense et belle d'une espèce nouvelle, plus à craindre que celle du sultan Saladin.
C'est charmant, c'est divin.
Près des vins de Touraine, je vois ceux d'Aquitaine, et ma vue incertaine s'égarant les contents. Là je vois l'Allemagne, ici brille l'Espagne, la frémie, le champagne du joug impatient.
Florian Sempey, vous dites que la musique de Rossini vous fait penser aux montagnes russes des fêtes foraines, hein?
Ah ben là, on en a un exemple parfait, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose vraiment de son invention, ce qu'on appelle le chant syllabique, c'est cette capacité de pouvoir chanter, prononcer de longues phrases sans respirer à une grande vitesse, et juste après ça on peut avoir un passage tout d'un coup soudainement très lent, ou alors encore plus rapide, ça arrive, et donc voilà, il faut savoir jongler entre ces différents aspects de la musique rossinienne et adapter sa technique et son chant à ces exigences-là.
Comment découvre-t-on sa voix de baryton ? Pour les ténors, on sait que c'est tout un travail, mais pour les barytons, c'est pareil ?
Ça a été un long apprentissage. À aucun moment, d'ailleurs, aucun professeur ne m'a dit que j'étais peut-être ténor ou basse ou autre chose. Ça a toujours été baryton depuis le départ. Mais la voix de baryton, et qui est pourtant normalement la voix la plus naturelle chez l'homme, la voix la plus accessible, on va dire, elle a mis du temps à se construire véritablement, à bien la poser sur le souffle. Donc, je vais dire que j'ai mis entre 5 et 6 ans à vraiment savoir que j'avais une voix de baryton. Lyrique.
Vous avez 34 ans, Florian Sempey, tout le monde vous reconnaît un talent formidable. Comment est-ce qu'on pense l'évolution de sa carrière qu'il faut planifier à l'avance, et il faut la planifier en fonction de sa voix et de son évolution et de son expérience. Alors comment on fait ? Vous avez votre horizon à vous, il est à combien ?
Moi, j'ai mon planning qui est plein de toute façon jusqu'à la saison 25-26, donc ça, on voit assez loin. Le plus difficile, c'est d'organiser, on va dire, la vie personnelle autour de la carrière et de se dire, bon, bah, à tel moment, déjà, il faut que je planifie mes vacances de 2024. Donc c'est compliqué de savoir à quel moment je prends mes vacances, déjà 2 ans à l'avance, voilà. Mais ce qui fait véritablement la bonne avancée d'une carrière, c'est le choix des rôles. Quel rôle je chante et à quel moment je les chante, et surtout où et avec qui je les chante.
Oui, mais quel rôle je chante, ça dépend aussi de la voix.
Bien sûr, bien évidemment, de savoir dans quel sens elle va.
On n'aborde pas n'importe quel rôle à n'importe quel âge.
Non, exactement. On pourrait, en théorie, mais après ça dépend l'horizon que l'on se donne et l'objectif que l'on se donne. Si l'on a envie que sa carrière dure moins de 10 ans, on peut tout à fait tout chanter et se faire plaisir, et puis en sachant qu'on chante sur le capital et non pas sur les intérêts.
Ça veut dire que ça réduirait sa voix à néant ?
Ça la fatiguerait, oui, beaucoup.
Je vous propose d'écouter un extrait d'un air de Rossini qui a rarement été enregistré, peut-être parce qu'il est difficile, c'est la Scala di Setta.
Ah oui.
Florian Sempey, vous chantez en ce moment le Faust de Gounod à l'Opéra de Paris jusqu'au 13 juillet. C'est là qu'est le fameux air des bijoux de la Castafiore.
Tout à fait.
Mais ça n'est pas vous qui l'interprétez, bien entendu.
Non. Je chante Valentin, qui est le frère de la dame qui chante l'air des bijoux.
Et vous chanterez encore et encore le Barbier de Séville en août, du 9 au 13. Où ça, d'ailleurs ?
Aux soirées lyriques de Sensé, c'est un festival. C'est le 3e festival plein air lyrique en France, après Aix et Orange. Et c'est dans le Marais Poitevin. C'est un endroit absolument sublime. Aussi dans un théâtre antique romain.
Et donc votre album solo, le premier, avec l'Orchestre National de Bordeaux, dirigé par Marc Minkowski, il s'intitule Rossini Figaro Si. Merci Florian Sempey.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine et terminé. On se retrouve demain matin à 9h pour la dernière émission de la saison. Et est entré dans ce studio Pierre de Villeneuve, les grandes voix. C'est dans un instant. Quel est votre programme, Pierre ?
Bonjour Frédéric. Eh bien, une Assemblée nationale façon puzzle avec un Éric Coquerel à la Commission des Finances, avec les menaces dont se sont visées l'OTAN par la Chine. C'est nouveau, ça vient de sortir, on en parle. Et puis... la fin du procès du 13 novembre, est-ce qu'il va vraiment y avoir des enseignements ou pas ?
Bonne émission !